Bonjour, c'est Christophe Frévaux pour RPL, la radio du Pays Lorrain. C'est l'heure de l'entretien régulier avec le maire de Peltre, Walter Kurzmann, et nous parlerons de pistes cyclables, d'ombrières photovoltaïques, de travaux immobiliers sur la commune, mais également de travaux de voirie, tout en évoquant son travail d'élu à la métropole et de la charge et des nombreux et importants dossiers qu'il mène au sein de la métropole. Mais comme vous vous en doutez bien, à quasiment 3 mois des élections municipales, eh bien, nous parlerons candidature. Monsieur le maire, nous sommes là pour notre point régulier sur l'actualité de la commune de Peltre. Que s'est-il passé depuis l'été dernier, notre dernière entrevue ?
Oula Christophe, plein de choses. Je vais essayer de prendre dans l'ordre. Le point, un des sujets les plus visibles, la création, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, la création de la piste cyclable. Les travaux ont commencé fin septembre, début août. Non, c'est le 4 septembre. Et vraiment, ça a été mené de main de maître par les services de la métropole et par l'entreprise Jean Lefebvre. Elle est opérationnelle et depuis déjà une quinzaine de jours. Et je peux vous dire qu'on a déjà beaucoup d'utilisateurs qui en sont ravis. Donc ça, c'est vraiment un point important pour la commune.
Je viens d'arriver par là. J'ai vu qu'il y avait, malgré la pluie, il y avait des cyclistes et il y avait des piétons.
Alors, je confirme. Entre midi, je vois des joggeurs, des gens qui sont dans la zone d'activité de Mercy. Je vois des gens qui ont pris le métis, qui redescendent à pied de la maternité jusque dans la commune. Je vois des cyclistes régulièrement qui partent, y compris le matin au boulot maintenant, puisque c'est plutôt une zone qui est sécurisée et en dehors de la route. Donc c'est vraiment un plus pour la commune, dans la continuité de ce qu'on avait déjà fait rue de Gargan avec les deux Chaussidoux.
Et vous avez prévu un geste inaugural peut-être au printemps ?
Alors ça, comme c'est pas, ça dépend pas uniquement de la commune, mais aussi de la métropole, il faut que je voie avec le président si, compte tenu de la réserve électorale, on fera quelque chose ou pas.
Peut-être après avec le nouvel exécutif de la métropole.
Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas si j'en suis.
Ah, mais ce sera une question qu'on posera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est un des projets, c'est un des belles choses qui sont faites d'ailleurs. Bah, comme ça, les gens peuvent aller jusqu'à Mercy, à Mercy où il y a du vélo libre-service notamment. Enfin voilà, c'est tout un maillage qui est en train de se faire sur le territoire. Quelles sont les autres actualités concernant la commune depuis cet été ?
Alors, un peu moins visible peut-être pour la population, sauf ceux qui ont l'habitude de fréquenter la mairie. La finalisation de l'ombrière photovoltaïque et sa mise en service. On est très content d'ailleurs parce que même aujourd'hui, un jour où il pleut, je peux vous dire que j'ai sur mon smartphone la production. Et ben, même quand c'est un peu nuageux, on a une petite production. Et aujourd'hui, tiens, à l'heure où je vous parle, on a la moitié de la consommation des bâtiments communaux, c'est-à-dire les deux écoles, le périscolaire, la salle des fêtes, le Quaroy, la mairie, qui est la moitié de la consommation électrique qui est produite par notre ombrière photovoltaïque. Donc on est plutôt content, c'est une belle opération, financée grâce à l'appui de la métropole et à l'appui de la région Grand Est. Donc vraiment, on est très content de ça.
Et pour rappel, la production d'électricité, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ?
Quand on est un peu du métier, oui, ça me tient à cœur. Et puis il faut penser à nos enfants, décarboner toute la production d'énergie, c'est bien. Et avoir une énergie qui vient du soleil et qui n'est pas chère, c'est bien aussi. Et du coup, avec les subventions qu'on a pu obtenir, au lieu d'avoir une installation qui est amortie en 7 ans, elle sera amortie seulement en 3 ans. Donc on est plutôt content.
Oui, et puis je vois les chiffres, vous venez de me les mettre sous les yeux. Effectivement, c'est impressionnant. On ne s'imagine pas, parce que je l'ai vu, l'ombrière, elle n'est pas si grande que ça pour produire autant.
Oui, c'est vraiment. J'invite tous ceux qui sont intéressés par le sujet à venir nous voir pour qu'on remontre un peu les résultats. Et qu'il se penche sur la question à titre personnel. Est-ce qu'il serait intéressant que je mette 1, 2, 3, 4 panneaux photovoltaïques sur la maison ? Et vous seriez surpris du résultat.
Et donc on peut imaginer, si au bout de 3 ans c'est rentabilisé, de pouvoir augmenter ce parc d'ombrières sur la commune ?
Bah, à nouveau, ce sera un vrai sujet pour la future équipe municipale.
Donc, après l'ombrière ?
Après l'ombrière. Bon, alors, pas grand-chose de visible, mais beaucoup de choses qui avancent. Les travaux, à ce jour, les travaux dans la maison d'habitation du 6 rue Tchéni avancent très bien. Le gros œuvre est terminé à 80%, c'est-à-dire qu'il restait les 4 murs, la toiture, et il fallait consolider les fondations, c'était ça le plus important, parce qu'on a découvert, en rachetant la maison, que les fondations étaient quasiment inexistantes pour cette maison, donc les fondations étaient consolidé par des reprises, qu'on appelle des reprises en sous-œuvre. Concrètement, pour ceux qui ne sont pas dans le bâtiment, ça veut dire qu'on vient sous les murs et on consolide, on fait des fondations plus profondes pour consolider les fondations existantes. Et ensuite, dans la maison, on a créé ce qu'on appelle des micropieux. Donc c'est comme si on enfonçait des grands crayons en béton dans le sol pour porter la structure qu'on a recréée à l'intérieur. Et donc là, cette structure, elle est aujourd'hui terminée. Et le gros œuf fait des travaux de finition. À la fin de l'année, il aura terminé. Là, la semaine prochaine, toutes les entreprises du bâtiment vont fermer pour les congés d'hiver. Saribat aura quasiment terminé et on va enchaîner à la rentrée avec la rénovation de la toiture et les corps d'état secondaires pour une livraison qui est prévue courant juin 2026.
Il y avait un autre projet aussi immobilier ?
On a deux autres projets. Le projet de rénovation du presbytère. L'appel d'offres a été finalisé. L'attribution des lots s'est faite. Et mardi après-midi, on a fait la réunion de lancement de ce chantier qui va commencer le 15 janvier pour une durée de 14 mois, ce qui nous ferait donc une livraison courant avril-mai 2027.
Là aussi, il y avait une des inquiétudes sur les fondations.
C'est plus que des inquiétudes. Si on n'avait rien fait, le bâtiment s'ouvrait en deux. Les deux murs pignons, c'est-à-dire le mur du côté de la rue de Gargan et le mur du côté du cimetière, s'ouvraient, ils se décollaient, ils s'ouvraient. Et je pense que si on ne fait rien, à un moment donné, le presbytère il va se retrouver par terre. Actuellement, c'est la charpente qui tient le bâtiment. Parce que, à nouveau, c'est un bâtiment, comme on le faisait dans les années 1870-1900, etc. On faisait des fondations peu profondes, mais très larges, des sortes de grosses semelles. Or là, avec le changement climatique, le retrait-gonflement des argiles, ça fait énormément travailler les bâtiments, et c'est ce qui se passe là sur le presbytère, des grosses fissures sur les murs pignons, et un risque d'effondrement des bâtiments si on n'y fait rien. Donc là, même motif, même punition que le 6 rue de Chény, reprise des fondations, démolition de ce qui doit être démoli à l'intérieur pour pouvoir recréer un appartement convenable pour le prêtre, maintenir le bureau paroissial, et au-dessus, on a l'autorisation par l'évêché de créer 4 logements, un logement de type T3, un logement de type T2, dans l'ancien grenier, un autre logement de type T3 et un studio.
Et enfin, un autre projet immobilier, puisque vous m'avez dit qu'il y en avait 3.
Voilà. Le dernier, ça concerne l'atelier communal. Donc là, ça se fera rue des Fours à Chaux, dans un terrain que la commune a acquis, entre la maison des Fours à Chaux. Enfin, la maison, c'est une grosse maison bourgeoise, un gros immeuble qui appartient à Vivest. C'est du logement social. Et puis, la compagnie de soutien technique et logistique du SDIS 57, on a un terrain là, et on va construire un atelier de 500 et quelques mètres carrés pour nos agents communaux. Alors, la question qui nous a été posée, c'est pourquoi vous construisez là et pourquoi vous n'allez pas dans la zone d'activité ? Effectivement, c'était une de nos premières préoccupations, sauf que dans la zone d'activité, les propriétaires qui ont des terrains libres ne sont pas vendeurs actuellement. Il y a un grand terrain, même de 2 hectares, qui appartient à une famille où il y avait l'ancienne centrale d'Enrobé. Ils ne veulent pas vendre. On a un autre terrain derrière chez Sécalor, qui appartient au patron de Sécalor, M. Klein. Il n'est pas vendeur non plus. On a la famille Miner, M. Miner et ses enfants, qui ont aussi des terrains, ils ne sont pas vendeurs. On a aussi les anciens bâtiments de Locamode, de l'entreprise Locamode, location de matériel pour les travaux publics qui nous aurait intéressé. Et là, il y a un problème, puisque l'entreprise qui était avant louait les murs, ils ont déposé le bilan, on a essayé de contacter les propriétaires des bâtiments. Pour l'instant, ils ne veulent pas vendre, premièrement. Deuxièmement, quand on a fait la visite des locaux, je vous assure que les locaux sont en très mauvais état, en tout cas la partie bureau, vestiaire, sanitaire, est en très mauvais état, et donc il y aurait nécessité de faire des gros travaux de rénovation. Et puis, on ne sait pas dans quel délai ce sujet-là pouvait se clôturer. Or, les vestiaires, l'atelier communal, pour nos agents communaux, notre service technique, ça devient vraiment un sujet urgent. Imaginez-vous que depuis 2003, ils sont dans la cour du Coireuil, dans un bungalow. On ne respecte pas la réglementation en matière de code du travail avec la surface qu'on devrait avoir pour les 4 voire 5 agents. Surtout, on ne respecte pas la séparation homme-femme. Donc, on a notre responsable du service technique, Julie, qui est obligée de s'enfermer dans le local qui est la douche, le toilette, qui fait 2,5 m pour pouvoir se changer, se mettre en tenue de travail. Quand elle a fini, enfin, ses collègues peuvent prendre leur douche, etc., etc. Vous voyez, ensuite, on a un bout d'atelier là, on a un bout d'atelier avec deux garages doubles devant la mairie, dans des deux garages qui sont dans la mairie. On a la maison de la rue d'Aubray où on stocke plein de trucs. Vraiment, c'est pas une organisation optimisée. Il est temps qu'on fasse quelque chose de plus fonctionnel, répondant au code du travail. Moi, je dis toujours, j'oublie pas que le maire, c'est aussi un employeur et qu'il est responsable des conditions de travail de ses salariés. J'oublie un point important qui est pas négligeable. Tous nos véhicules, ils sont aux intempéries toute l'année. Et on a un tracteur, par exemple, pour le déneigement, même s'il neige plus souvent, qui est pas en bon état parce que toute l'année, il est à la pluie, il bouge pas beaucoup. Donc voilà, il est vraiment temps qu'on fasse quelque chose. L'appel d'offres est clôturé. On fait la réunion de commission d'appel d'offres lundi prochain, le 15, et le conseil municipal de mercredi prochain attribuera les marchés de travaux pour un démarrage de travaux, là aussi, deuxième quinzaine de janvier, pour une durée normalement de 10 mois.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets ?
Oui, encore un. C'est un sujet qui est attendu depuis longtemps aussi. Rénovation de la rue de Gargan. La phase 3 de la rue de Gargan, on a fait la phase 1 qui était de l'Étrier jusqu'à la rue d'Aubray, la phase 2 qui était de la rue d'Aubray jusqu'à la rue de la Horne jusqu'au Lavoir, et là on va faire Lavoir jusqu'à rue des Vignes. C'est un projet qui a beaucoup moins d'ampleur en termes de voirie, mais qui a plus d'importance en termes d'enfouissement des réseaux, puisque c'est entre le Lavoir et le passage à niveau, un des seuls secteurs de la commune où les réseaux aériens n'ont pas été enfouis. Donc là, on va d'abord faire l'enfouissement des réseaux. L'appel d'offres est en cours. On va ouvrir les plis début janvier. Et ensuite, donc pour faire d'abord l'enfouissement, ça c'est les travaux à charge de la commune. Et ensuite, la métropole, en concertation et en coordination avec la commune, reprendra les voiries. Là, on va faire du qualitatif puisqu'on va reprendre le parking en face du kebab. On va reprendre toutes les voiries, recréer des places de stationnement, remettre tous les trottoirs aux largeurs qui sont des largeurs maintenant réglementées pour l'accès aux personnes handicapées, personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. Et puis, on va mettre en place un feu rue des Vignes pour permettre la traversée en sécurité des enfants et des familles qui vont à pied à l'école.
Je reviens sur l'enfouissement des réseaux. Aujourd'hui, pour les communes, c'est un investissement assez lourd, puisque jusqu'en 2017, il y avait des aides et non plus d'actualité aujourd'hui. Du coup, vous avez trouvé des arrangements avec les concessionnaires, peut-être ?
Alors, pas d'arrangement avec les concessionnaires, mais on a réussi à décrocher une subvention, bon, qui est pas énorme, hein, c'est à peine 10% du montant des travaux, avec Reseda à travers un mécanisme qui s'appelle le FACÉ. C'est un peu compliqué à expliquer, mais donc c'est un fonds qui aide à la sécurisation des réseaux, parce que enfouir les réseaux, ça contribue à leur sécurisation, puisqu'ils sont moins soumis aux aléas climatiques, les tempêtes, même la pluie, simplement la pluie sur les connecteurs qu'il y a en place sur les poteaux, bah, ça endommage au fil du temps les connecteurs, ça peut créer une rupture et ça peut aussi créer des risques. Donc il y a un fonds pour ça, le FACÉ, donc on a une subvention à ce titre-là.
Vous me tendez un petit peu la perche, c'est un sujet qui n'est pas loin de l'aménagement du territoire. On vous a vu être très attentif à la visite et à la prise de parole de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation la semaine dernière. Quel est votre ressenti par rapport à ce qu'elle a pu, à son écoute déjà, parce que vous avez vraiment partagé, vous avez été même le premier à prendre la parole pour exposer quelques griefs ou quelques revendications. Quel est votre ressenti ?
Ben, d'abord, j'étais très content d'avoir fait partie du panel des maires invités à cette rencontre. Et moi, mon ressenti, il est sincèrement positif. La tâche va être difficile pour elle, mais je sens vraiment une véritable volonté de simplifier les choses, de simplifier un petit peu le millefeuille administratif et surtout les décisions prises, et de laisser plus la main au préfet en coordination avec les maires, parce que, elle l'a répété, la ministre, les préfets sont plus proches des maires, et les maires ainsi que les présidents d'Interco savent vraiment ce qui est le plus pertinent dans l'application de la loi pour simplifier les choses. Et donc, il n'y aura pas de miracle, hein, il ne faut pas compter sur des miracles, mais il y a une vraie volonté de simplifier et de faciliter les prises de décision pour accélérer les dossiers. Et moi, je crois vraiment que si la ministre, si le gouvernement actuel tient dans le temps, la ministre fera des choses intéressantes.
Oui, on a pu observer, il y avait des maires de zones périurbaines, il y avait des zones de milieux ruraux, et je crois que l'unanimité était autour de la demande de simplification, la demande de facilitation et la demande de cohérence également.
Absolument, parce qu'on voit qu'entre différents territoires, il y a des décisions qui sont prises par le préfet, par les services de l'État, qui sont relativement différentes, voire quelquefois à l'opposé. Et même le préfet s'en est pas caché en disant on demande aux communes pour prendre des décisions une étude, puis quand l'étude elle va pas dans le sens des services de l'État, on leur demande une contre-étude et voire une troisième, et ça c'est pas acceptable. À un moment donné, il faut arrêter tout ça parce que ça retarde les dossiers, ça coûte de l'argent et il faut simplifier toutes ces démarches-là.
Encore autre chose à rajouter sur la vie de la commune?
Pour une fin de mandat, c'est déjà pas mal. Alors, la question que pourraient se poser vos auditeurs, vos auditeurs et nos concitoyens, c'est mais comment se fait-il qu'à la fin du mandat, on se bouscule pour faire autant de choses? Il faut bien que chacun comprenne que, justement, dans les sujets des simplifications, ça en fait partie. Faire des projets pour une commune, c'est très lourd. Ça demande beaucoup d'études, de faisabilité, ça demande beaucoup de dossiers de demande de subvention qui, quelquefois, n'aboutissent pas. Si on a le malheur de commencer avant d'avoir la réponse, la subvention elle est perdue. On est soumis au code de la commande publique, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas une entreprise avec laquelle on a l'habitude de travailler, puis on lui dit « bon bah ça y est, tu me fais un devis, et puis on y va demain ». Non, c'est pas comme ça, il faut faire une procédure qui est assez longue, qui dure un mois et demi. Ensuite, j'avais oublié une étape importante. Chaque fois qu'on fait des travaux de bâtiment, il faut choisir un architecte, il faut choisir un contrôleur technique des constructions, un coordonnateur sécurité, il faut faire des études de sol, il faut faire des études diagnostiques pour être sûr qu'il n'y a pas d'amiante, qu'il n'y a pas de plomb. Là, en l'occurrence, on a dû faire deux fois des études de sol, puis ensuite études hydrogéologiques pour confirmer, notamment pour l'atelier, qu'on avait la possibilité de réduire notre impact en termes d'eau pluviale et d'infiltrer toutes les eaux pluviales à la parcelle. Vous voyez, c'est tous des processus qui sont très longs et ça prend, par exemple, sur le presbytère, on est à quasiment 2 ans d'études quoi, avant d'arriver à démarrer les travaux. C'est un marathon, c'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon.
Oui, parce qu'on rappelle, pour tout ce que vous avez cité, il faut à minima une consultation, sinon un appel d'offres.
Absolument, un appel d'offres qui prend du temps. Là, l'appel d'offres, toutes les études qui ont été menées sur le presbytère, ça a mis plus de 8 mois. On a lancé l'appel d'offres et on a eu le malheur au résultat de l'appel d'offres de constater que pour le lot électricité, chauffage, ventilation, on était hors des budgets. On a repris avec l'architecte, le bureau d'études spécialisé, les études. On a regardé s'il y avait moyen de simplifier ce qu'on avait prévu, d'optimiser ce qu'on avait prévu pour rentrer dans le budget et tenir les cordons de la bourse. Ce qu'on a fait, et puis donc, c'est tout récent, on a ouvert les offres mardi, et là on est en pleine analyse des offres pour attribuer les offres au conseil municipal la semaine prochaine.
Vous avez évoqué le dernier sujet qu'on va aborder, vous avez parlé de fin de mandat. Qui dit fin de mandat, c'est un quid de la suite. Vous étiez encore en pleine réflexion la dernière fois où nous nous sommes vus, vous étiez en pleine réflexion notamment pour préserver votre vie familiale. Est-ce que cette décision elle a été prise?
Alors, écoutez, je dois commencer par remercier ma femme parce que je passe beaucoup de temps à la mairie, beaucoup de temps à la métropole, avec beaucoup de projets à la métropole. La rénovation de l'Opéra Théâtre, la piscine, la rénovation du dépôt des camions poubelles qu'on appelle le centre technique métropolitain, la création d'un deuxième dépôt de bus, la création des bureaux de la police métropolitaine, l'étude pour une deuxième piscine, l'étude pour une cuisine centrale, la rénovation du conservatoire de musique à rayonnement régional, la rénovation des Beaux-Arts, qu'on appelle les HAL, l'École supérieure d'art de Lorraine. Voilà, tout ça, c'est 9 projets que je porte avec les équipes de la métropole en matière de bâtiment. Donc vous voyez qu'en plus des 4 projets sur la commune, je ne suis pas au chômage. Et vous vous rendez compte qu'avec tout ça, je ne passe pas beaucoup de temps à la maison. Donc j'ai un petit deal avec ma femme. Elle est d'accord pour que je reparte pour un troisième mandat, pardon, j'allais dire un deuxième, un troisième mandat, à condition de qu'on arrive à se préserver un peu de temps pour nous deux et puis pour nos enfants, puisque tout le monde sait maintenant que je suis à la retraite depuis quelques temps, et qu'on puisse un peu profiter de la vie, parce que la vie peut être très courte. On a des exemples actuellement de collègues mères qui sont malades, qui ne sont pas en bonne santé, et, ou d'autres dans notre environnement, et donc il faut savoir profiter de la vie. Voilà. Donc si la question c'est est-ce que je repars, ben oui, je repars. Je suis candidat à rassembler toutes les gens de bonne volonté dans la commune qui ont envie de travailler pour la commune, qui ont envie de travailler pour les services communs, le service à la population, sans étiquette politique et en se retroussant les manches, parce que il y a du travail. Alors autour de moi, il y a déjà 8 collègues du précédent mandat qui sont partants. Les autres, pour des raisons personnelles, soit liées à l'âge, soit liées au nombre de mandats qu'ils ont fait, ne sont plus partants. D'autres qui, pour des raisons personnelles, voient que c'est prenant d'être conseiller municipal, ne souhaitent pas repartir. Donc on a commencé à solliciter différentes personnes dans la commune pour faire une nouvelle liste. Il nous faut trouver 12 personnes, c'est-à-dire 10 personnes plus 2 suppléants. On verra, on espère trouver toutes ces bonnes volontés. On vous dira ça bientôt.
Oui, parce que justement, pour pouvoir préserver sa vie familiale avec toute la charge de travail d'un maire et d'un élu à la métropole, il faut s'entourer d'une bonne équipe en qui on a totalement confiance.
Ah, c'est indispensable, c'est-à-dire qu'il faut déléguer. Sinon, si on ne délègue pas, on ne peut pas tout faire et le burn-out nous guette rapidement au coin de la rue.
Donc on peut dire que c'est un appel aux bonnes volontés.
Ah, totalement, c'est un appel aux bonnes volontés. S'il y a des gens qui se sentent avoir des compétences et une appétence pour la vie publique et surtout pour des envies de travailler pour toute la population de Peltre, elles sont les bienvenues.
Je vous remercie. On se reverra dans quelques semaines pour parler peut-être de la campagne et des projets qui vont se dessiner au travers de cette campagne.
Christophe, vous serez le bienvenu. Et puis, moi, j'ai toujours plaisir à communiquer à travers RPL et à donner des infos à nos concitoyens. Donc, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir à tous.
Je réitère l'appel du maire Walter Kurzmann à le rejoindre sur sa prochaine liste pour les municipales en mars 2026. C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.